Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, il faut savoir faire du neuf avec du vieux et découvrir 200 mètres qui montent doucement en pyramide, le site de Tonina.
Nous sommes sur le site de Tonina, Maurice.
Nous sommes devant le site de Tonina, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons faire... vous savez ce qu'on appelle en cinéma des flashbacks comme ça ? Mm-hmm. On va s'imaginer partir tout à l'heure de Palenque, dans la zone la plus chaude, la plus connue aussi, ce site superbe face au golfe du Mexique, enfin à 100 km, mais vraiment 100 km devant soi depuis Palenque, c'est vraiment 100 km absolument plane jusqu'à la mer. Et puis, on va petit à petit grimper en s'arrêtant à Guasul, dans la Sierra Madre, et on va se percher à peu près à 1800 mètres d'altitude. Et là, on va traverser un petit village, une petite ville qui a beaucoup fait parler d'elle, qui fait beaucoup parler d'elle, qui est Ocosingo, qui est le département le plus vaste sur le plan agricole, sur le plan, disons, de puissance économique aussi, de tous les Chiapas. Nous sommes dans les Chiapas mexicains. Or, ces Chiapas bougent et la région d'Ocosingo bouge et bouge encore. En l'occurrence, c'est simplement parce qu'il y a justement des tensions économiques entre les grands propriétaires terriens qui sont là à 1800 mètres et qui peuvent utiliser ce terrain fantastique. Vous êtes sur une sorte de plateau de la Sierra Madre.
C'est très vert. Hein.
C'est vert à en mourir. C'est l'endroit où vraiment on a des saisons comme les nôtres et en même temps, on a l'impression qu'on est quand même dans un climat un peu subtropical. Mais par contre, pour une bonne vache importée d'Europe, c'est l'idéal absolu. Il y a du fromage partout, il y a du lait partout, bien sûr. Et on a des pâturages.
Alors que les Mexicains ne sont pas vraiment...
Non, ils ne sont pas très laitiers parce qu'ils ne l'étaient pas de manière précolombienne non plus. Je veux dire qu'avant l'arrivée des Espagnols, on ne connaissait pas le lait finalement. Mm-hmm. Mais les Américains s'y mettent. Les Mexicains aiment quand même bien le côté fromage. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on apprécie dans tous les plats pratiquement. On en met par-dessus les haricots, on en met dans passablement de plats. Et on le mange volontiers. Ça ressemble un peu à du chewing gum quand même. Le fromage qui est fait par exemple de la région de Oaxaca est assez tiré en fil comme ça. Tandis que celui de la région de Ocosingo, moi je m'arrête toujours. C'est une petite ville coloniale avec une petite place. J'ai mon petit bistrot attitré avec des colonnes, des simples tables avec la toile cirée classique. Vous avez deux ou trois femmes devant vous, plutôt métisses, avec des aides indiennes, bien sûr. Ça, c'est de nouveau ce climat curieux où le blanc exploite l'indigène qui vous prépare la cuisine. Et c'est vrai qu'il y a des lieux où les métisses sont plus sympathiques que d'autres. Dans un restaurant, on sent qu'il y a quand même une connivence, même s'il y a deux classes. Et là, c'est vrai que systématiquement, je commande mon fromage.
Et vous pouvez partir. Vous me donnez faim, il est 11h passé, vous me donnez faim.
On peut partir avec plusieurs kilos de fromage, mais ça ressemble à. On pourrait même citer des marques. C'est un fromage onctueux, comme ça, un peu acide, entre Gala et Philadelphia, s'il fallait donner vraiment des marques. Mmh. Et ça se sert en gros pain, comme ça. C'est emballé comme une grosse motte de beurre, si vous voulez. C'est bien agréable. Il faut le mettre dans la glacière, bien sûr, mais parce que ça se conserve assez mal à la chaleur, mais il a un goût absolument somptueux. Et quand on était à Ocosingo, les touristes en général ignorent complètement qu'à quelques mètres, à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres de piste, il y a actuellement peut-être le site maya le plus extraordinaire qu'on puisse visiter.
Il est très important, il est très grand ce site.
Il a quelques mois. Je veux dire qu'il y a eu une équipe française qui a travaillé dans les années 70 jusqu'aux années 80, puis ensuite les Mexicains s'y sont remis. C'est-à-dire que les Français avaient découvert beaucoup de choses et ils les avaient ensuite recouvertes. C'est-à-dire qu'on avait remis les remblais sur les fouilles.
Pour quelle raison ?
Simplement par protection. C'est une façon de restaurer ou de ne pas restaurer. On a consolidé certaines choses, mais disons que le site n'était pas vraiment visible. On imaginait ce que vous allez découvrir maintenant. C'est-à-dire que vous suivez cette piste depuis le bourg de Ocosingo, qui est au milieu de cette immense vallée. Et dans le fond, sur la Sierra Madre, vous commencez à percevoir aujourd'hui une tache jaune-blanc comme ça. Et plus vous vous approchez, plus vous dites « c'est impossible ». C'est vraiment une suite de constructions qui a été posée contre la pente de la montagne.
De la montagne, oui.
Et en fait, vous avez cette verdure, ces arbres autour qui ont été naturellement dégagés pour cette partie centrale. Et là, tout à coup, on se dit, mais ça n'est pas seulement un site, c'est vraiment une solution qui est à la fois horizontale et verticale. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on pourrait, un peu comme on le ferait pour une coiffe de Sioux, vous savez, c'est l'envie de le coucher sur le sol et puis de déplier sa coiffe pour voir vraiment comment il est structuré. Puis finalement, le Sioux, il se double carrément, hein, il se dédouble, si j'ose dire. Parce que cette coiffe, c'est un peu ce qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire que vous avez sur le bas le terrain de jeu de pelote, par exemple, qui est immense et qui est en somme l'entrée du site. Et ensuite, vous avez une succession très lente de plateformes qui s'accélèrent.
Une sorte de pyramide.
Oui, qui s'accélère, une succession même de pyramides. Quand je dis s'accélérer, c'est que les premiers escaliers sont larges, sont confortables, première plateforme, deuxième, troisième. Mmh. Et quand vous vous approchez de la cinquième, de la sixième et de la septième, eh bien, vous avez effectivement un rétrécissement. Donc, on a l'impression qu'on suit un labyrinthe de plus en plus difficile et qu'on arrive vraiment à un sommet qui est presque impalpable au départ. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas du tout ce qu'on va trouver en haut. Et on tâchera de se promener tout à l'heure, ou même peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, dans ce site, simplement pour découvrir ce que les Mexicains viennent de mettre à jour, c'est-à-dire qu'il y a, dans la volonté architecturale d'un précolombien, tout ce que vous voyez, si vous voulez, a été structuré symboliquement.
Donc cette construction, elle date de quand ?
Alors, c'est une grande construction classique, mais en deux mots, là, puisque vous me prenez avec des dates, Tonina est un site qui se développe vraiment dans les années 500 de notre ère, et qui est un des seuls de la grande époque classique des Mayas, puisque nous y sommes, qui va s'éteindre pour une première date importante en 909 de notre ère. Si je suis si précis, c'est parce qu'on a retrouvé une stèle, c'est-à-dire une inscription avec un hiéroglyphe pour ce souverain qui en 909 a placé cette date sur le site. Mmh. Or bizarrement, 909 par rapport à tous les classiques mayas, c'est la dernière date classique. Donc vous êtes dans le site qui a duré le plus longtemps et qui a vécu le plus tard chez les mayas. Alors il est perdu tout à fait. Regardez sur la carte, Tonina, quand on part de Palenque, qu'on part du golfe, qu'on remonte vers San Cristobal de las Casas, qui serait notre but, eh bien vous êtes carrément déjà à l'ouest de la zone maya. C'est le site pratiquement, par son importance en tout cas, le plus à l'ouest de toute la zone maya. Copan est tout à fait en bas, ou Honduras à droite, le Yucatan est tout à fait au fond de sa péninsule, toujours à droite et du côté est, et là on est à l'extrême. Alors ils ont subi toute la grande période classique, ils ont eu cet apogée extraordinaire dans les années 800-790, pour être encore plus exact, parce que c'est une date toute ronde chez les Mayas, pas pour nous, mais pour eux. Et en l'occurrence, au moment où on prononce, par exemple, 9-18-0-0-0, là, selon leur compute, eh bien, on remarque que Tonina commence à peine à exploser, c'est-à-dire prend vraiment de la puissance. Et on ira se balader tout à l'heure à Palenque, parce qu'il s'est passé des choses qu'on ignorait il y a quelques mois, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionne l'agriculture qu'on a sous les yeux, et regarder le paysage avec cette verdure, et puis cet étalement extraordinaire, cette richesse qui fait qu'à l'époque on y plantait du maïs et on comprend qu'on était riche, et puis surtout alors ce commerce qui est juste derrière, et puis ensuite la guerre et le tribut.
Call me up.
Nous sommes devant l'un des plus grands et l'un des derniers sites Maya. Hein, donc nous sommes à Tonina.
Oui Frédéric, nous sommes à Tonina et on est même dans le temps de Tonina parce que ce que nous avons sous les yeux, là, le paysage que je décrivais avec ces quelques arbres qui restent, ces grands pâturages, ça devait ressembler à autre chose, à la belle époque précolombienne. C'est-à-dire que j'ai cité le maïs, mais c'est vrai que le paysage, c'est un peu comme si on était à la fois au pied du Molaison et dans le Jura. C'est-à-dire cette espèce de douceur des préalpes, cette espèce de douceur du Jura. Et la Sierra Madre, à cette altitude, a quelque chose de confortable, justement. Et il faut bien comprendre que ce que j'ai dans le dos, si je regarde le paysage, c'est la succession pyramidale la plus incroyable que les Mayas nous aient laissée. On a ça à Tikal, mais c'est de la construction pure sur du terrain plan ou sur des plateformes qui montent jusqu'à 70 mètres. On aurait ça par exemple à Yaxchilan, en pleine jungle, dans une boucle du fleuve où il y a un énorme rocher, si vous voulez, une grosse colline, et on l'a utilisé pour coller les bâtiments les uns sur les autres. Mais Tonina, on a vraiment choisi le contrefort de la montagne et on va vraiment jusqu'au sommet, comme si on traversait, comme je le disais tout à l'heure, à la fois de manière horizontale, mentalement, et verticale, tous les mondes possibles. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'avec les dernières découvertes que nous venons de faire, on a retrouvé tous les souverains de Tonina, je veux dire les hiéroglyphes des souverains.
Et on sait bien conservé.
Ah, totalement. On a même leur ordre de succession parfait. On a retrouvé des stèles qui ressemblent aux plus belles stèles de Copan ou de Piedras Negras.
Donc on a dû retrouver des dates.
Oui, alors sur la stèle, il y a naturellement le nom des personnages, plus les datations exactes, la prise de pouvoir, la façon de fêter tous les 20 ans, etc., qui sont des périodes de temps bien précises chez les Mayas. Et ce qui est également fabuleux, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'évolution chronologique, ces gens-là vont retravailler cette espèce de fausse pyramide pour arriver justement à 200 mètres de hauteur. Ben, on imagine un immeuble de 200 mètres de hauteur avec des étages successifs. C'est un peu ce qu'on a sous les yeux. Alors l'histoire, elle commence bien sûr avant notre ère dans la région, mais il y a des dates clés qui sont des dates écrites. Alors nous, on s'occupe que de ce qui est écrit, si vous voulez. On essaye de concentrer. Je vous ai donné tout à l'heure 909 comme date finale. Eh bien, je vous dirais que pour moi, quand je pense à Tonina, je pense d'abord à 593. Vous allez me dire pourquoi 593? Eh bien, parce que chez les Mayas, ça s'écrivait 98000. Encore un chiffre tout rond, un chiffre qui nous dit que nous sommes 9 fois 400 ans après le début du monde, plus 8 fois 20 ans. Je ne vais pas rentrer dans les mathématiques parce que ceux qui nous écoutent ne vont pas faire forcément le calcul, mais c'est un beau chiffre rond et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a une seconde phase, une sorte d'ère qui va s'ouvrir dans la région et que par rapport au calendrier, on va voir monter sur le trône en 593 un fondateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment marquer une dynastie. C'est un peu comme si je disais, ben voilà, j'ai Louis Ier et puis on va s'amuser à faire évoluer les choses, et c'est au moment de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI qu'on arrivera au sommet, et puis Louis XVI, au pire, il va s'arrêter comme Louis XVI, c'est-à-dire il pourra être décapité, même si c'est celui d'à côté. Ça s'est toujours passé dans les grandes dynasties, on le sait seulement aujourd'hui. Alors cette première sculpture, elle nous montre un être assez curieux, on l'appelle en espagnol cabeza de reptil, c'est-à-dire c'est une énorme tête de serpent, et il est représenté comme cela, avec une bouche énorme, avec un rapport bien sûr avec le symbole qui nous fait penser à l'inframonde, parce que le serpent est toujours proche de ce monde qui est en dessous de nos pieds. Et d'ailleurs, un Maya, lorsqu'il était grand chef, eh bien, lorsqu'on plantait une stèle au milieu du site, là, dans ces espèces de coffres-forts, ces palais, ces temples un peu secrets, ces pyramides qui sont toujours plus secrètes plus on monte, eh bien, lorsqu'on mettait l'image du personnage dans la pierre, avec la date, avec l'intronisation, etc., on appelait ça des arbres de pierre. Ça voulait dire qu'on liait vraiment le ciel, la terre, avec l'inframonde. C'est un peu comme si je plante un arbre. Ben, l'arbre, il a ses feuilles qui montent jusque vers le ciel et en même temps, il a ses racines qui lui permettent de connaître ce qui se trouve sous nos pieds. Eh bien, un souverain dans la pierre ou sculpté dans la pierre, c'est ce contact entre les deux mondes. C'est le seul qui peut prendre l'ascenseur et fonctionner entre le haut et le bas. Alors, vous comprenez déjà pourquoi je disais vertical, horizontal, et puis qu'en même temps, je vais maintenant placer les quatre points cardinaux. Je vais recréer complètement le cosmos, simplement à coups de pierre, de construction, de stuc. Et on a trouvé des stucs éblouissants à Tonina qui nous racontent par exemple l'histoire des quatre soleils, c'est-à-dire les airs qui nous ont précédés avec les éléments, avec le vent, avec l'eau, avec le feu, le jaguar, le serpent, tous les animaux mythiques qui sont autour de ces différents soleils. Et puis ensuite, on aura une période où on va s'intéresser aux deux jumeaux. Alors quand je dis deux jumeaux, ça signifie qu'on s'intéresse plutôt à la dualité des choses. Et ces deux jumeaux, eh bien on sait très bien que ce sont deux jeunes gens qui étaient à la fois. C'est assez curieux, Ina, on pourrait le comparer au serpent à plumes, comme ça, cet animal qui comme Vénus, se balade dans l'espace, apparaît, disparaît. Et puis l'autre qui serait au contraire le Tezcatlipoca, qui est un dieu plus curieux, qui est un peu magicien, un peu nocturne, avec un miroir fumant d'obsidienne à son pied. Ben, c'est celui qui serait en bas. Donc je viens d'inventer le haut et le bas avec ces deux jumeaux qui vont vivre de façon tout à fait naturelle, en jouant à la pelote, en étant un peu déjà devin ou en tout cas sorcier. Et on les écoute en sous-sol. Hein. C'est un peu comme si vous tapez trop fort dans votre appartement sur le plancher et que ceux de dessous commencent à taper avec un balai. Ben, c'est exactement ce qui se produit dans l'histoire, dans la légende de ces deux jumeaux. Ceux d'en dessous les appellent en leur disant « Mais pourquoi vous faites tant de bruit avec votre balle de caoutchouc ?» Et ils vont descendre dans l'inframonde et les deux premiers jumeaux vont mourir, ils sont sacrifiés et leurs enfants seront de nouveau des jumeaux. Et c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Là, j'ai parlé des parents et des enfants. Donc, on a deux couples de jumeaux dans l'histoire. Et finalement, ces deux suivants vont faire le même trajet dans l'inframonde, vont descendre, jouer à la pelote avec tous les dieux qui existent sous nos pieds. Et là, ils seront suffisamment subtils, suffisamment malins pour gagner leur partie et ne pas perdre la tête comme les premiers et remonter ensuite en surface. Eux qui vont nous révéler finalement ce qu'est l'autre monde. Et ce seront en même temps les souverains qui connaîtront parfaitement ce message venu de l'au-delà. C'est un peu comme une révélation, si je peux dire. Eh bien, à Tonina, on remarque tout cela sur le site même. C'est comme si je m'amusais à placer les bâtiments et les choses et vous dire, voilà, on peut expliquer à la fois cette histoire et à la fois une autre. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était une sculpture, ce qu'était une intronisation, mais je vous dirais qu'on peut se balader dans le monde de Tonina de façon tout à fait nouvelle, parce que si je parle de cette montagne un peu magique, cette espèce d'espace sacré de Tonina, eh bien, vous comprenez que je viens de transformer, je reprends le terme, en labyrinthe de pouvoir. Dans ma tête, même si vous n'avez rien compris, là je suis méchant, mais même si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire par rapport à la structure du cosmos, il faut savoir qu'il n'y a que quelques personnes qui connaissent ce labyrinthe et qui ont le droit de s'y promener et qu'en fait...
Par exemple
Je veux dire, les grands prêtres, les grands Ahau, comme on les appelle. Ahau, c'est à la fois la représentation solaire et en même temps le souverain par excellence. Et cet axe dont je parlais, eh bien, ces gens-là vont vraiment, dans le calcaire pur, dans cette montagne, créer une sorte d'anagramme géant qui fera que tout ce qui est autour d'eux, toutes les populations qui sont autour d'eux, vont être régies comme on régit ce cosmos sacré. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si je parlais d'espace horizontal et vertical, ben, vous avez obligatoirement au pied, la partie plane, je l'ai cité avec le jeu de pelote, et puis ensuite c'est l'acropole qui va nous faire monter du sud au nord. Vous voyez que même cela m'oblige à penser que le site n'a pas été posé sur cette montagne à cet endroit par hasard, mmh. C'est tout simplement que je peux jouer architecturalement du nord au sud et du sud au nord. Et ça c'est important
tout
parce que...
Pensé.
Oui, il y a vraiment une profondeur du sacré qui s'interprète dans... Il n'y a pas un caillou qui a été posé par les précolombiens sans qu'il y ait une idée derrière la tête. Vous me direz, on ne fait pas tellement autre chose en construisant une église, en tout cas on ne faisait pas autre chose au moment où on a inventé les premières lois architecturales des monuments sacrés, mais c'est quand même assez impressionnant que tout à coup, lorsque j'ai un bâtiment qui est sur l'Orient, eh bien, je sais que je peux le dédicacer à telle personne, et si j'en ai un sur l'Est, je vais le dédicacer à ce même Dieu, mais sur l'Ouest, ce sera autre chose. Mmh. Vous saisissez ?
Ouais, tout à fait.
C'est un peu complexe, mais passons par exemple au deuxième souverain. On a des dates précises qui sont un peu plus complexes parce que lui est vraiment monté sur le trône à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois à Tonina qu'on remarque, par exemple, que ce personnage, qui a un temple que je vais dédier là au monstre de la terre, hein, eh bien, ce temple et cette sculpture va nous montrer qu'il a capturé un autre seigneur, un autre souverain qui s'appelait Mol. Et on le voit très bien entre les mains de notre grand Ahau de Tonina. Eh bien, pour la première fois, on va voir des prisonniers et on va pouvoir les soumettre. Ça, c'est déjà une idée un peu plus catastrophique. La guerre, la mort, le tribut, ça n'est plus tout à fait de la simple agriculture et du commerce.
Thank you.
Boris, vous nous avez parlé tout à l'heure de deux souverains sur ce site de Tonina, mais racontez-moi l'histoire de Palenque.
En même temps, ça serait une bonne occasion de choisir ce qui s'est passé au moment du deuxième. C'est-à-dire qu'on on va pas aller jusqu'au quatorzième, mais c'est simplement pour montrer que maintenant, pour la première fois, c'est un peu comme un scoop radiophonique, je peux vous annoncer les événements qui se sont vraiment produits dans les années 600 ou 700 de notre ère. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que ces gens-là ont fait parce que tout à coup, on sait lire les hiéroglyphes. C'est ça la grande révélation. On a donc le nom des souverains. Alors, au moment où notre deuxième souverain, enfin, il s'appelle Crâne Serpent. Il a presque le nom du premier, qui lui était plutôt tête de serpent. Et celui-ci, il va construire ses temples, il est en train de faire ses palais à Tonina. Et Palenque, puisque vous mentionnez ce site, est à peu près à 200 km. C'est un peu comme si j'avais Genève, là, qui commence à se construire. Et un peu plus loin, j'ai Lyon, qui est déjà bien structuré. Et en fait, du côté de Palenque, c'est le moment de gloire absolue. C'est-à-dire que là-bas, vous avez, par exemple, on l'appelle des fois Perroquet Blanc, mais moi, j'aime bien l'appeler Pacal Bouclier, qui est son nom traduit par les Américains. Guacamaya Blanca, ça, c'est un nom qui est donné plutôt par les Mexicains ou les chercheurs russes. Chacun a son interprétation des hiéroglyphes au moment de la lecture du nom du souverain. Mais ce souverain est quelqu'un d'éblouissant. C'est-à-dire qu'il se prend vraiment pour un dieu. C'est vraiment Louis XIV du moment pour Palenque, en l'occurrence. Et ce souverain va faire construire une pyramide extraordinaire.
Il a régné pendant combien de temps ?
Alors, il a régné très longtemps. Parce que si ma mémoire est bonne, il est mort en 693. Il est mort à pratiquement 80 ans. Et il a réussi à faire construire dans sa vie tout Palenque, disons toute la base de Palenque, à prendre certainement un territoire énorme aux alentours. Et il a surtout voulu qu'on construise sa tombe avant sa mort. Et son idée en tant que divinité, c'était de se faire enterrer dans cette tombe avec une somptueuse plateforme de départ, un escalier qui descend à l'intérieur. Tout le monde connaît vraiment la pyramide des inscriptions, parce que c'était la grande découverte des années 50. Et il a un véritable sarcophage où il nous raconte sa descente dans l'inframonde, etc. Et puis, au moment où il meurt, on va l'enterrer. C'est son fils qui va s'en occuper. Et c'est Chan Balun, qui lui s'appelle Serpent Jaguar, qui reprend la succession. Et Serpent Jaguar va, pour montrer qu'il est le digne successeur de son père, immédiatement faire construire trois temples pour expliquer comment il est relié à l'inframonde et à son père lui-même, et qu'il reçoit ses pouvoirs d'en bas. Alors ça, c'est l'idée majeure. Et puis son père, pendant ce temps, il fait son travail comme un bouclier du soleil. Il le renvoie chaque année. Il fait son travail en sous-sol, un peu comme un dieu le ferait. Mmh. Et son fils, malheureusement, ne va pas vivre très longtemps, puisque vous parlez de longueur de vie. Et immédiatement, c'est son frère qui va reprendre la succession. Et son frère s'appelle Khan Hul. Et quand il va monter au pouvoir, eh bien, il se passe des choses assez curieuses à Tonina. Et en l'occurrence, on a là, aux alentours de 692, la montée au pouvoir de Cook, qui est le souverain peut-être le plus fort du moment à Tonina. Et Cook, eh bien, il va carrément déclarer la guerre à Palenque. Ça, c'est un moment. Là, on a l'impression de rentrer dans du journalisme.
Alors, pourquoi cette guerre ?
Bah, tout simplement parce que pour des questions de territoire, Genève, tout à coup, a envie de grignoter un bout
de Lyon.
Bah oui, de tout ce qui est autour de Lyon. C'est-à-dire, hein, on va descendre du côté du Dauphiné, puis on va essayer. Alors ça, c'est ce qui se produit en général. Mais ça n'est pas tellement le côté territorial qui devient impressionnant, c'est qu'on est rentré dans cette nouvelle ère où non seulement on cultive son petit plant de maïs, ses haricots, sa courge et son piment, mais tout à coup, on se dit que pour que fonctionnent les choses, il faut oser se comparer à quelqu'un d'autre qui a également l'ascenseur. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir quel est le meilleur ascenseur. Mmh. Et finalement, c'est un peu ça. Alors, ça peut se faire par guerre ou ça peut se faire simplement en jouant à la pelote. On fait un match entre deux grands chefs et puis que le meilleur gagne. Et celui qui perd, ben, tant pis pour lui. Et là, en l'occurrence, ce qui est fabuleux, c'est qu'au moment où on déclare la guerre à Khan Hul, ben, Khan Hul va être fait prisonnier. Et là, on va en fait le ramener à Tonina, on va l'humilier. On l'a donc retrouvé en image à Tonina. C'est fabuleux. C'est comme si, je vous le disais, on a été chercher le grand souverain d'un lieu, on le ramène et puis tout à coup, on ne le voit plus du tout sur une stèle magnifique en train d'être ce lien entre le haut et le bas et de commander à tous ces sujets, ces dizaines de milliers de sujets. Non, il est carrément dénudé, il a des cordes pour l'attacher, il est complètement soumis, on lui met des symboles secondaires, il n'en est pas moins noble. Mais finalement, ce grand souverain de Palenque va être décapité à Tonina. Ça, c'est en général la fin de l'histoire, chaque fois. Hein, le prisonnier est décapité et ce sang, ben, ça n'est pas seulement la mort, c'est naturellement une façon... On va chercher l'arrosoir à côté, si j'ose dire. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment pour laisser s'écouler vers cet inframonde, dans cette terre, le pouvoir et la force. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver tout à coup avec des effets secondaires assez curieux. C'est-à-dire qu'au moment où Khan Hul a été fait prisonnier, vous êtes de Palenque. Vous êtes le successeur éventuel et vous faites partie de la noblesse du lieu. Et vous savez qu'à 200 km là-haut, à 1800 mètres d'altitude, on vous a piqué votre dernier chef. Eh bien, il y a une sorte de pouvoir qui vient de s'imposer sans qu'on vous enlève la dynastie. C'est-à-dire qu'on vous laisse faire ce que vous voulez, mais vous avez tellement perdu de pouvoir réel que finalement, vous devenez silencieux. Et ce qui est fou, c'est qu'on vient de découvrir qu'à Palenque, on a pratiquement, je dirais au moment où on a une nouvelle ascension, en 704 par exemple, eh bien, on a pratiquement 100 ans de silence, c'est-à-dire que Palenque ne peut plus rien dire, ne peut plus rien prouver, ne peut plus rien faire. Or, c'est un site d'une importance fantastique. Et là, Tonina devient vraiment le maître du jeu et ce symbole qui va s'exprimer partout, eh bien, ce sera le fait, par exemple, de construire un jeu extraordinaire, le jeu de pelote, et puis de dire qu'on est vraiment les maîtres de toute la Sierra Madre jusqu'au premier contrefort de Palenque et qu'en fait, on a acquis par cela du pouvoir de l'au-delà. Alors ça, c'est un exemple par rapport à un souverain, mais ces moments de guerre, eh bien, on va les fêter. C'est-à-dire qu'obligatoirement, si vous venez d'obtenir un captif pareil, ben vous allez vous offrir un véritable temple à la guerre et dans un coin, vous mettrez un énorme, on le voit d'ailleurs à Tonina, un énorme, comment est-ce qu'on dit escudo en français ?
Un guerrier ?
Non, c'est ce qui protège le guerrier, vous savez.
Le bouclier.
Le bouclier. On va faire un gros bouclier dans un coin et on va créer peut-être l'escalier le plus curieux que j'ai jamais vu. C'est-à-dire quand on est devant ce temple, il y a, comment vous le faire comprendre ? Un escalier minuscule qui grimpe une fois comme cela sur la droite et un autre qui le croise une fois sur la gauche. C'est-à-dire que vous faites un immense X, si vous voulez. Mm-hmm. Mais attention, ça fait 20 ou 30 mètres de haut, hein, c'est énorme. Vous le voyez comme une sorte de hiéroglyphe. Hein. Et en même temps, à côté, on va construire une sorte de petit appendice comme cela et on va vraiment placer à l'intérieur un trône. Un trône majestueux qui est vraiment décoré de tout ce qu'un Ahau peut rêver, c'est-à-dire des peaux de jaguar, encore de ces... Comment j'ai dit tout à l'heure là,
Les boucliers.
Des boucliers. Et vous aurez des projectiles du moment, c'est-à-dire les atles, vous savez, ces espèces de
lances
qui sont poussées par le projecteur. Là, vous savez, on tient cela dans la main à l'arrière et c'est un propulseur qui permet ainsi de lancer la javeline. On va retrouver toutes sortes de symboles qui vont nous faire comprendre qu'en passant du jaguar à l'étoile de la guerre, eh bien, là, vraiment, pour la première fois, ces gens-là, avec l'idée de Vénus, avec la dualité, sont devenus les maîtres. Donc ça se montre aussi, encore quelques serpents à plumes, encore quelques décorations intérieures, encore quelques os croisés pour bien montrer que la mort est présente. Là, on vient de faire quelque chose de très fort avec tout un labyrinthe d'escaliers souterrains qui représente véritablement une sorte de révolution conceptuelle qui va maintenant se passer dans tout le Mexique, mais surtout ici à Tonina. La guerre, le tribut, la force. Take.
Sur ce trône, guerrier, décrivez-moi un petit peu ce trône.
Alors, j'essayais déjà de le situer parce qu'en fait, l'endroit où nous sommes maintenant, on est à mi-parcours, disons, dans cette espèce de montée incroyable des 7 étages qu'on a essayé de décrire, de cette plus haute construction que les Mayas nous a laissée. Et en fait, on avait un temple solaire. Et puis, au moment où on a une telle victoire sur une autre ville, exactement comme si on venait de flanquer la pâtée à Lyon et qu'on se trouvait à Genève, eh bien, on transforme le monument de la Réformation en autre chose. C'est-à-dire qu'on a supprimé le temple solaire et on en a fait un temple de la guerre. Alors, j'ai tout à l'heure donné cette image, je sais pas, ça doit faire quelque chose comme 7 sur 20, 4 fois, je parle des petits escaliers là qui grimpent, ça nous donne une première symbolique. Et puis votre trône alors, Frédéric, il est placé à côté, vraiment sous un couvert de maçonnerie, si vous voulez, et c'est en observant les détails du trône que j'ai pu donner toutes ces images de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que la base du trône, ben, il faut l'asseoir sur quelque chose d'important. Alors le pouvoir réel chez un précolombien, un Maya, eh ben, c'est le fait que l'animal le plus fort ce soit le jaguar. Donc on va mettre des peaux de jaguar qui sont dessinées avec les petites perles, enfin les petites tache du jaguar. Et puis en même temps, entre ces peaux de jaguar, on va mettre les javelines de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de faisceau de javelines, comme un Romain ferait un faisceau pour montrer effectivement la puissance des légions. Et puis en l'occurrence, par-dessus, on va mettre trois supports avant de mettre une immense table de stuc et de pierre ou de maçonnerie. C'est-à-dire ces trois supports, on va également les décorer. Alors là, on va mettre le côté H du pouvoir. H avec un H, bien sûr. C'est-à-dire la puissance de celui qui va s'asseoir dessus. Alors c'est une grande table, si vous voulez. voulez, le trône. C'est une espèce de grande plateforme comme ça qui fait plusieurs mètres de côté et qui fait en tout cas 1,50 m de profondeur. Alors là-dessus, bien sûr, si j'ai de l'imagination, dans les années 700, disons en 704, au moment où Palenque ne sait même plus écrire,
sur cette grande table
moi j'y mettrais de nouveau des pots de jaguar, j'y mettrais peut-être un ou deux vases en bas, parce qu'on a des sculptures qui nous montrent comment on était assis. Alors vous prenez la pose du tailleur, vous laissez peut-être une jambe juste glisser le long du trône, vous êtes vous-même harnaché, vous avez vos plumes sur la tête, et puis vous avez vos conseillers qui sont autour. Donc c'est vraiment un endroit où non seulement on détient le pouvoir, la preuve c'est que derrière le fond du trône, qui lui-même est le fond de la paroi, c'est-à-dire un peu le fond de la chapelle si je peux dire, eh bien ou de la salle du trône qui est minuscule, c'est une mise en avant, il y a une image, il y a la couleur. Ça c'est quelque chose que vous pouvez voir, même si vous êtes tout en bas et que vous êtes un simple Pékin, vous apercevez hein, au milieu de cette immense pyramide à plus de 100 mètres de hauteur, vous apercevez ce trône et ce personnage qui bouge avec ses plumes vertes sur la tête. Alors derrière lui, c'est-à-dire son dossier de siège si vous voulez, qui est carrément un bon mètre derrière lui, il y aura sûrement un ou deux coussins supplémentaires qui peuvent être aussi en peau de jaguar ou en autre chose. Il y a toujours des coussins, souvent même, vous savez, un peu comme le font les musulmans, c'est-à-dire qu'on prend le coussin puis on le coince, ou les Japonais même le font aussi avec des appuis, hein. On prend le coussin sous son bras et on prend sa meilleure position comme ça, on a beaucoup d'allure. Et bien derrière, on a ces symboles de Vénus qui courent, une espèce de grande moustache double avec le côté jumeau, parce que Vénus, ben, c'est normal, c'est une fois l'étoile du matin, c'est une fois l'étoile du soir. Vénus, elle est toujours double, hein. Elle est toujours multiple, parce que c'est étrange de l'avoir un jour à l'est et un autre jour à l'ouest. Elle accompagne le soleil, ou au contraire, elle meurt avec lui. Et ça, ce sont des symboles qui nous rappellent l'idée des jumeaux. Donc on vient de nouveau de recréer par l'image, par la peinture, par le stuc, un décor complet où on ne peut pas s'asseoir à un endroit sans être soi-même le centre du cosmos, sans être le centre du monde. Ces gens-là devaient avoir l'impression d'être effectivement des hommes-dieux. Là, je prendrais même l'idée de l'Égypte, hein. On a cette obligation de relier les espaces. Ben, il est assis là, donc autour de lui, il faut qu'il y ait le monde entier symboliquement.
Thank you.
Nous sommes sous le cinquième souverain, Maurice.
Oui, on a déjà grimpé assez haut. En fait, on était parti en 593 avec le premier.
Et quel était son nom?
Alors, il s'appelait Cook, justement. On l'appelle Saint-Cook. Saint-Cook qui a une consonance d'oiseau, bien sûr. Et parce que Cook, c'est la représentation d'un oiseau. Et finalement, ensuite, on a un véritable dieu jaguar qui va monter sur le trône. Alors, il a fait une fête énorme en 914-000. C'est-à-dire, ça se fête tous les 20 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'époque? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans les années 711 dans le monde maya? Eh bien, justement, des choses assez semblables. C'est-à-dire que les communications existent et on commence à changer de façon de penser. Eh bien, par exemple, à Tikal, qui est comme le monstre qui se trouve là-bas dans la jungle du Petén guatémaltèque, eh bien, on commence à construire, à partir de cette date très précise, 9-14-000, on commence à construire des pyramides jumelles. C'est-à-dire que tout à coup, tous les 20 ans, on reconstruit un complexe entier, et puis on en remet un autre à côté, puis encore un autre à côté, tous les 20 ans. C'est une nouvelle habitude. Au lieu de faire des pyramides en hauteur, tout à coup, on crée des places, des sortes de dédicaces tous les 20 ans. Et puis en même temps, à Copan, eh bien, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on commence à découper le temps par 20, et puis ensuite par 10, et ensuite par 5. C'est l'obsession du calendrier. Et chaque fois, il devait y avoir des fêtes absolument monstrueuses parce qu'on pouvait montrer que le Katun, tel qu'on le nomme chez les Mayas, c'est-à-dire 20 années de 360 jours, c'était vraiment un moment tout à fait impressionnant. Alors, ensuite, il y a un autre souverain qui monte sur le trône. Il s'appelle Crâne, Serpent, Griffe de Jaguar. Il a un très beau nom. Alors lui, on a une dédicace là qui monte à peu près en 713. On a retrouvé sa sculpture au printemps 1992. Et là, tout à coup, on a pu le mettre dans la chronologie et le coincer entre deux autres souverains. Alors lui, c'est quelqu'un de sympa parce qu'il va compléter le temple des guerriers que vous appréciez tout à l'heure. Et en l'occurrence, il va faire quelque chose de curieux. Il va créer un escalier tout à fait spécial et il va pénétrer carrément dans la roche. C'est-à-dire qu'il va aller faire une sorte de grotte sous ce temple, simplement pour montrer que là, au fond, comme en gestation, comme dans une sorte de matrice, on peut vraiment communiquer avec l'inframonde. Donc, il crée lui-même le cœur de la montagne, si j'ose dire. Et ça, c'est une petite œuvre de rien du tout, mais...
Est-ce qu'il y allait, lui, dans cette grotte?
Ah bah oui, il devait y avoir des rituels absolument fous. Comme je venais de faire la fête tous les 20 ans, eh ben là, il devait y avoir des consacrations tout à fait magiques où ces gens-là avaient la communication avec l'autre monde. Et puis lui, il va faire quelque chose de fou aussi. Ce sera notre dernier événement d'aujourd'hui. Là, je peux carrément faire le téléjournal du moment. Eh bien, c'est vrai que je peux vous déclarer que le jour 5, Eb, 10, Yakchin, en 9, 14, 18, 14, 12, c'est-à-dire le 20 juin 730 de notre ère, donc à la fin du printemps, on a de nouveau flanqué une pâtée monumentale à ceux de Palenque. Alors, tous les journaux en ont parlé à l'époque. Je veux dire par là que tout à coup, on vient de prouver qu'on a capturé véritablement le dernier grand souverain de Palenque, comme on l'a fait tout à l'heure, et que là, eh bien, obligatoirement, on va le reprendre comme prisonnier. Et ça va se refléter une fois de plus sous la forme de la capture dans l'iconographie de Tonina. Alors, c'est intéressant simplement de savoir que ça se passe au printemps. On vient de faire une découverte fantastique. On se rend compte que ces gens-là luttent exactement au moment où les saisons changent. Vous comprenez tout à coup que la guerre devient signification. Le printemps, ça n'est pas n'importe quoi. Attention, la plaine est toujours verte. Il vient de commencer à pleuvoir à Tonina. Il fait même très, 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 très beau. Redescendez à Okosingo. On refera le voyage depuis Palenque.
Et on se retrouve dimanche prochain. On continuera l'histoire.